Chapitre 21. La réunion terminée, chacun repartit s'organiser pour le début des opérations. Pendant que les frères et Derek préparaient leur installation dans les Pyrénées, la sécurité m'avait trouvé une petite maison à quelques kilomètres de Montségur. De là, je pourrais me rendre compte de visu des activités de nos adversaires. Nous avions pris la route vers le sud-ouest. Deux gardes m'escortaient, ainsi que Nathan, qui cette fois ne s'était pas laissé convaincre de rester seul à Chartres. Nous étions partis tôt le matin, nous relayant au volant, ne nous arrêtant que pour faire le plein. Ceux qui ne conduisaient pas somnolaient sur la banquette arrière. Après presque une journée de route, nous avions atteint les contreforts des Pyrénées. À mesure que le relief s'accentuait, les routes devenaient de plus en plus tortueuses, serpentant entre villages et forêts de chênes, de hêtres et de pins. Il y avait même un peu de neige. Nous roulions au cœur de la région où, au Moyen-Âge, avaient vécu les Cathares. Cette communauté avait développé une philosophie de vie, une forme de religion concrète basée sur la dualité du bien et du mal qui leur avait permis de prospérer modestement, mais dans la paix. Adeptes du partage et du respect d'autrui, ils refusaient la religion officielle et la féodalité, synonyme d'asservissement et d'impôt. Ils rejetaient le matérialisme au profit de l'esprit. Le pape et les seigneurs du Midi ne tolérèrent que peu de temps ceux qui osaient vivre sans leur dieu et leur taxe. Les Cathares furent déclarés hérétiques. Réfractaires à revenir au sein de l'Église catholique, ils furent accusés de tous les maux, puis pourchassés, le tout bien évidemment, au nom de l'amour du Très-Haut. La seule institution qui s'éleva pour les défendre fut l'ordre des Templiers. Les moines soldats avaient servi la couronne et la croix. Ils n'en connaissaient que mieux les limites. Eux aussi avaient développé un mode de vie propre à l'écart des valeurs de l'époque. Leur pouvoir financier et l'homogénéité de leur présence en Europe leur garantissaient la puissance et le meilleur réseau d'informateurs connus. Dans chaque ville, dans chaque bourgade, il existait une commanderie ou un relais. Les Templiers avaient créé presque autant de routes et de villages que les Romains. Ils tiraient leur force d'un réseau humain lié par des idéaux puissants et profonds. Ils avaient été le premier groupe structuré à se battre pour autre chose que lui-même. Les Cathares, pacifistes, trouvèrent en eux les alliés qui leur permirent d'avancer encore dans l'élaboration d'une société idéale. L'histoire ne leur laissa pas le temps d'aller beaucoup plus loin. Le trône et le Saint-Siège virent dans cette alliance un pouvoir naissant qui risquait de leur faire ombrage. Ceux qui prônaient la paix furent accusés de conspiration contre l'Église, ceux qui avaient protégé les pèlerins sur les routes de Jérusalem finirent par être condamnés pour hérésie. La croisade des Albigeois, lancée en 1209 par le pape Innocent III, fut la première croisade à se dérouler sur le territoire de la chrétienté occidentale. Une gigantesque opération de purification du Sud, au nom de la vraie religion, qui se transforma en guerre de conquête pour le roi de France. Par la suite, dans le sud-ouest du pays, puis presque partout en Europe, l'Inquisition, envoyée par le pape pour veiller à la santé spirituelle des fidèles, commença à allumer des bûchers sur lesquels très souvent se retrouvaient Cathares et Templiers. Des villes furent détruites, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants furent massacrés par des mercenaires. Les Cathares ne renièrent jamais leur foi. Les Templiers ne cédèrent le terrain qu'après avoir protégé et sauvé ce qui devait l'être. Le château de Montségur tomba après un siège de 10 longs mois. Sa chute marqua officiellement la fin du catharisme et préfigura celle de l'ordre des Templiers. La voiture s'arrêta devant une maison à l'égard du village de Fougax, niché dans la vallée au pied du château. Isolée, la bâtisse était entourée d'un terrain découvert, blanchi par la neige, planté de quelques chênes et d'un bouquet de sapins malingres. Dans la remise, attendaient de puissants VTT électriques et une voiture, un modèle courant qui affichait au compteur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avec des plaques de la région. Les gardes changèrent de véhicule, troquant notre confortable SUV pour celui-ci, plus passe-partout, afin d'aller faire une première visite au château avant la tombée de la nuit. Pendant ce temps, Nathan et moi préparâmes la maison et ce qu'il serait exagéré d'appeler un dîner. J'allumai un feu dans la cheminée qui tiédit peu à peu la pièce principale. Dehors, le vent soufflait en rafale, soulevant des tourbillons de neige que la nuit ne tarderait pas à geler. Les gardes revinrent un peu plus tard. Quand ils entrèrent, le sifflement du vent et une poignée de flocons les accompagnèrent. « Il n'y a personne au château, » annoncèrent-ils en secouant la neige de leurs chaussures, « et rien que les habitants au village. »« Ce n'est pas possible, ils sont forcément dans le coin. » C'est aussi ce qu'on s'est dit, alors. On est monté au sommet du pic, et c'est de là qu'on les a vus. Ils ne sont pas installés au château même, mais à trois endroits autour. Ils déplièrent une carte sur la table et désignèrent les emplacements au nord, au sud et au nord-est du pic sur lequel se dressaient les ruines du château de Montségur. Ils démarrent exactement là où nous avions terminé, constatai-je. Vous avez pu voir ce qu'ils trament ? Non, nous avons seulement aperçu des véhicules, du matériel et des tentes. Nathan lut l'inquiétude sur mon visage. Que peuvent-ils faire ? Ils sont sur nos anciennes positions. Espérons qu'ils n'ont pas trouvé les passages. Je n'en dis pas davantage. Ce n'était pas utile. Le repas fut vite avalé, chacun s'occupant ensuite en jouant aux cartes ou en lisant. Pour ma part, je compulsais les documents qu'Andrew avait rassemblés à mon intention, attendant patiemment que mes compagnons succombent au sommeil.